Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.
Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Il est exactement 16h51. On est ravis d'être avec vous. Nous sommes en direct ici au Palais des Festivals de Cannes. Nous sommes le 13 mars 2024. C'est la 34e ou la 35e édition du MIPIM. Ça dépend si on compte celle du Covid, par exemple. Donc, il est inutile de dire que c'est le rendez-vous de la planète immobilière. Plus de 100 pays sont aujourd'hui réunis. On est avec vous jusqu'au 15 mars. Et bien évidemment, nous rencontrons ceux qui fabriquent la ville. Et une ville qui se fabrique ne pourrait pas l'être sans les élus locaux. C'est bien d'eux dont on souhaite parler. On va aussi leur rendre justice, puisque justement, évaluer, raconter comment se fabrique la ville avec les élus locaux. Je rappelle que nous aimons particulièrement les maires de France, ici, sur le plateau de Radio Immo. Pour cette table ronde, on l'a imaginé avec nos partenaires d'Envie de Ville et Nexity, avec Jean-Luc Porcedo, président de Ville et Territoire pour Nexity Transformation. Merci d'être avec nous, bonjour.
Bonjour,
comment ça va?
Ça va très bien, merci de ton invitation.
Ville et Projet, moi j'aime beaucoup cette vision que tu portes sur l'aménagement du territoire. Grand professionnel, tu as vu beaucoup de dossiers, donc tu as souhaité pour cette ville, pour cette table ronde, c'est notre deuxième numéro avec Envie de Ville, justement, pour parler de l'aménagement du territoire et réunir des élus locaux qui fabriquent le territoire. Elle est avec nous, elle est adjointe au maire de Argenteuil, vice-présidente de Boucle Nord de Seine, membre du comité d'administration de Tchouss Paris Région. Camille Jiquel, comment ça va, Camille?
Très bien,
merci. Je suis ravi. Alors, on se tutoie dans la vie, mais on va dire qu'on se voit, parce que voilà, c'est un peu l'usage à la radio. Je suis ravi que vous soyez avec nous, puisque, voilà, que des personnes comme vous se mettent en politique, moi, je trouve que c'est très réjouissant, c'est jubilatoire, et c'est nécessaire dans une ville comme dans une ville comme Paris ou comme Argenteuil, et plus largement pour un pays comme la France, qu'on a besoin de cette génération d'élus qui s'implique par passion et par vocation. Parce que c'est ça qui vous anime, ça je le sais, parce qu'on se connaît depuis quelques années. Merci en tout cas d'être avec nous. Voilà, il est le maire d'Elancourt, président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Jean-Michel Fourgous, bonjour.
Bonjour.
Ben moi je suis ravi d'être avec vous. Vous aussi, je suppose.
Pas de problème, non, c'est un plaisir d'échanger la construction la société de demain, oui, parce qu'en fait, c'est un peu ça.
Et on va parler surtout de la vie de l'élu que vous êtes aussi dans ce paradigme de l'aménagement du territoire, qui est une vraie nécessité dans notre pays. Il est le maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole, président de l'établissement public d'aménagement de Bordeaux Euratlantique. Clément Rossignol-Puech est avec nous. Bonjour Clément.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être avec nous. Je vous propose dans un premier temps, si vous voulez bien, pour cette émission en direct du Palais des Festivals de Cannes, sur cette thématique de comment l'aménagement du territoire peut-il être au service de la ville durable. Avec vous, un petit édito, Jean-Luc Porcedo. Si on devait le définir, Jean-Luc, comment, si on devait comme ça, décrire de façon un peu holistique, avec une vision profonde de l'aménagement du territoire dans notre pays, comment peut-il être aujourd'hui réellement au service de la ville durable?
Alors je le dirais d'abord en un mot, partenaire, et puis je le déclinerai, on va dire, en trois items. Le premier, c'est apporter aux collectivités, en qualité de partenaire, parce que moi je suis aménageur sur l'ensemble du territoire national, travailler, accompagner sur une vision globale de la transformation. Sur une vision globale, on va dire, sur un temps long, parfois le moins long possible, mais malgré tout, un temps long, parce que la transformation des territoires, ça s'inscrit dans la durée, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, ça se fait, ça se construit en réfléchissant, en apportant, on va dire, d'autres thématiques que simplement l'immobilier, souvent la mobilité, même systématiquement si possible la mobilité, mais aussi l'énergie, mais aussi les questions d'eau, mais aussi bien évidemment la renaturation, la place de la nature dans ces territoires d'aménagement ou de réaménagement. Donc c'est d'abord apporter aux collectivités une réflexion, une vision globale. Deuxièmement, c'est apporter, parce qu'on travaille sur, on va dire, de la superficie, du volume. L'aménagement, c'est d'abord et surtout du volume, et pas simplement un objet immobilier, d'apporter de l'anticipation. Quand je dis anticipation, c'est apporter ce qui est utile forcément pour nos clients et nos partenaires, ce sont les élus, mais aussi pour les administrés des territoires où nous intervenons, c'est-à-dire l'anticipation sur les modes constructifs, la qualité de l'habitat, la qualité de l'espace public. On ne dit jamais assez combien l'espace public est déterminant pour la qualité de l'habitat. Tout récemment, on livrait une partie du village olympique et s'il y a, au-delà de la performance d'avoir livré un tel projet en si peu de temps, ce qui est vraiment frappant quand on voit le village olympique sur les villes de Saint-Ouen, Saint-Denis, Île-Saint-Denis, c'est la qualité de l'espace public. Et l'espace public fait que la densité devient acceptable. Puis le troisième point, qui me paraît moi très important dans le métier ou dans les métiers que je fais, c'est offrir, apporter, accompagner les élus sur la narration du projet de transformation. L'aménagement, c'est une nouvelle forme de narration de l'acte de faire, l'acte de construire, l'acte d'aménager. On pense que vous ne me contredirez pas en disant, nous on le voit beaucoup, qu'aujourd'hui l'acte de construire est un sujet où l'acceptabilité est quand même souvent remise en cause. Le travail de l'aménageur, c'est d'accompagner les élus, les territoires, justement sur la construction de cette narration, la narration de la transformation de la ville. On le voit beaucoup, nous, dans les sujets sur lesquels nous intervenons, par exemple les entrées de ville. C'est la transformation, c'est l'extension de la ville, tout en étant, on va dire, dans une capacité d'anticipation, je le disais, qualité de l'habitat, qualité de l'espace public, tout en étant dans un travail de narration sur comment je vais continuer à transformer mon territoire.
Ça pose clairement le débat avec une particularité qui est les équations auxquelles vous devez faire face, parfois contraires, et parfois, mais j'allais dire même antagoniste par nature. Je vous voyais opiner justement du chef avec les propos de Jean-Luc. Je vais commencer par vous, Clément Rossignol-Puech. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cet édito, cette introduction sur l'aménagement du territoire ?
Ben, ça, je souscris aux propos qui viennent d'être dits, puisque l'aménagement de la ville et du territoire en sens général, ça ne se fait pas tout seul. Donc c'est vraiment un enjeu très fort, partenarial, qui doit à la fois répondre aux enjeux du quotidien. Voilà, en France, on manque de logements, on le sait. Par exemple, sur la métropole, sur le département de la Gironde, il manque 60 000 logements sociaux. Voilà. Et on sait qu'il y a un déficit de logements en général. Donc il faut être en capacité de produire des logements et de concilier les crises que nous vivons actuellement, les difficultés de toute la filière, avec des objectifs de temps long, comme vous l'avez dit, qui sont les enjeux du siècle. Les enjeux du siècle, c'est quoi ? C'est gouvernement climatique. Il faut qu'on soit en capacité d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Et les enjeux de la construction, de l'aménagement, le logement, l'immobilier, c'est une partie très conséquente des émissions de gaz à effet de serre, et notamment en lien avec la mobilité. La chute de la biodiversité, il ne faut pas l'oublier, les enjeux de renaturation. Donc ça se fait en effet en partenariat au niveau d'aménagement national, aménagement départemental, la fameuse diagonale du vide, comment en France on fait pour que certains départements arrêtent de se vider, comme la Creuse, et des départements qui se remplissent, comme la Gironde, par exemple, on gagne 20 000 habitants par an.
C'est dingue.
Donc on ne sait plus comment faire. C'est-à-dire qu'on a des politiques publiques extrêmement volontaristes en termes de construction, en termes de transport, mais en fait, on est toujours rattrapé par les habitants qui arrivent. Et les logements. Donc là, il y a un enjeu macro, donc, qui dépasse un peu le maire que je suis, plutôt régional ou national. Et puis, il y a un enjeu vraiment local. Comment est-ce qu'on construit la ville durable. Donc là, il y a beaucoup de leviers, de nombreux ont été cités, je pense qu'on va y revenir. Comment faire pour à la fois que le bâtiment lui-même, la construction, soit durable, donc les enjeux carbone, les enjeux biosourcés, la densité, comment la rendre acceptable, désirable, même faut aller plus loin, comment sortir de ce rêve du pavillon pour tous, parce que c'est pas possible en France, on le sait bien. Mais également, travailler les espaces publics, le report modal, bien sûr, la végétalisation, la gestion de l'eau, et puis la ville du quart d'heure, la mixité fonctionnelle. Donc je balaye un peu tous les sujets, vous entendez. Une ville monofonctionnelle ne fonctionne plus. Voilà, il y a d'un côté du logement, de l'autre côté de l'emploi, et puis on allonge les distances, domicile-travail, en voiture, donc ça c'est pas possible. Donc il faut à la fois avoir des transports en commun efficaces, mais également la ville du quart d'heure, c'est-à-dire dans chaque quartier, de l'emploi, du logement pour tous, et tout, c'est faire en sorte de réduire les distances de parcours, domicile emploi ou domicile études. Donc voilà un peu c'est quoi les leviers. Il y a une prise de conscience globale. L'ensemble des acteurs doivent fortement se mobiliser.
Moi, c'est intéressant ce que vous dites parce que finalement, dans ce que vous décrivez, il y a vraiment des. J'ai dit, c'est une offre multipolaire. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez faire face à des techniques, à des disciplines très diverses, très variées. Et finalement, l'élu local, il est un peu comme un chef d'orchestre qui doit arbitrer entre tous ces éléments-là, toutes ces décisions-là. Est-ce que ça reflète assez bien, Camille, le paradigme ou l'enjeu pour l'élu local que vous êtes également ?
On parlait tout à l'heure, d'injonctions contradictoires. On en est plein aujourd'hui d'injonctions contradictoires. La première, et d'ailleurs, au-delà de ces injonctions contradictoires qu'on aime beaucoup se rajouter soi-même, hein, et puis d'ailleurs, on trouve aussi souvent beaucoup de raisons de ne pas faire. Pourtant, on a plein de solutions pour le faire aujourd'hui. Par contre, c'est vrai qu'on le disait en préambule juste avant l'émission, le temps de l'administré, le temps du citoyen n'est pas le temps de l'aménagement, n'est pas le temps de la réglementation. Donc nous, notre rôle d'élu, c'est deux choses. C'est déjà d'être... alors c'est plein de choses, mais il y a quand même deux choses. C'est déjà d'être des facilitateurs de ces partenariats publics-privés, c'est d'être les facilitateurs de cet aménagement pour pouvoir aussi donner une vision. Parce que sans vision, on ne va pas pouvoir aménager la ville, le territoire, et le territoire sous toutes ses formes, que ce soit l'intercommunalité, donc l'EPT Boucle Nord de Seine, par exemple, pour reprendre cet exemple-là, la métropole du Grand Paris, la région, et ça va même beaucoup plus loin, puisqu'en préambule du MIPIM, il y avait Housing Matters, qui faisait intervenir des maires d'autres villes d'Europe, et on rencontre exactement les mêmes problèmes. D'accord ? On est aussi garde-fou, c'est-à-dire que notre rôle, c'est aussi de dire non, et de dire non pour des raisons particulières, parce que notre territoire, on le connaît, et nos habitants, on les connaît aussi. Ce que vous disiez tout à l'heure sur la ville du quart d'heure, sur ces besoins que l'on a de vivre dans nos territoires et d'ancrer, on a les solutions aujourd'hui et elles coûtent pas cher.
Ainsi que de la préservation, vous l'avez dit très justement, et ça c'est vrai, de la biodiversité. Et de la nature qui se réinvite en ville. Hein.
Donc par exemple, à Argenteuil, c'est très concret, c'est un quartier d'aménagement qui s'appelle Porte Saint-Germain-Berge de Seine, sur 75 hectares, qui est sous contrat d'intérêt national depuis 2016. On travaille sous un PPA, un projet partenarial d'aménagement, qui inclut l'ensemble des partenaires institutionnels publics et privés qui investissent sur ce projet d'aménagement de territoire. Et concrètement, on a développé un schéma d'aménagement, des fiches de l'eau, et chacun sait ce qu'il peut faire, ce qu'il doit faire, ce dont on a besoin à tel ou tel endroit. Les habitants ont été inclus dans la démarche d'aménagement et de besoins que l'on a sur le territoire. Et très concrètement, ça donne de la sanctuarisation du foncier économique et productif. On en a besoin. Et je dis bien productif. Parce que c'est un autre débat, mais il y a aussi l'intelligence artificielle qui arrive. On va avoir besoin de garder la production et les métiers qui ont des hautes valeurs ajoutées sur nos territoires proches des logements.
Exemple, de la résorption. Un exemple.
Sur le productif,
oui.
Bah, typiquement les 11 hectares du site industriel Dassault, qui est aujourd'hui installé à Argenteuil, qui est pastillé aujourd'hui dans les schémas d'aménagement régionaux et aussi dans le PLUI sur lequel on travaille à l'intercommunalité, comme étant un foncier productif d'avenir pour la ville, le territoire, la région et même la politique de réindustrialisation française. À côté de ça, on a besoin de logements. Et on a besoin de résorber de l'habitat indigne qui existe aujourd'hui dans nos villes, notamment nos villes denses. Et le rôle, justement, des aménageurs et des promoteurs, c'est aussi de reconstruire la ville sur la ville. Et pourquoi aujourd'hui, il y a un petit désamour de la construction, c'est que pendant longtemps, c'était facile de construire. On faisait un peu n'importe où, sur une qualité qui n'était pas toujours au rendez-vous. En tout cas, c'est la perception qui est celle-là. Et aujourd'hui, c'est vrai que le fait d'avoir ces schémas déjà d'aménagement et aussi la charte de la construction durable que l'on a rédigée à Argenteuil il y a 2 ans, qui donne des règles très claires, mais qui sont un rappel du bon sens paysan. Voilà. Sur comment on vit autour du bâtiment, comment on vit dans le bâtiment et comment on vit dans le logement. La simple réponse, c'est une simple réponse à la question comment on vit à Argenteuil. Et puis ensuite, dans ce schéma-là, il y a tous les services et les équipements qui sont nécessaires à une vie de quartier. Et il y a un mot qui a été beaucoup utilisé en préambule de ce MIPIM, c'est le community, qui est très utilisé dans les pays anglo-saxons, qui n'a pas tout à fait la même connotation en France. Mais en fait, cette communauté, ce quartier, c'est bel et bien la ville du quart d'heure et la communauté qui doit aujourd'hui faire preuve de solidarité. Solidarité entre les habitants, les commerçants, etc. Les acteurs qui construisent la ville. Solidarité des bâtiments aussi, qui peuvent aussi être solidaires les uns des autres entre le neuf, la réhabilitation. Solidarité énergétique, par exemple. Et vraiment avoir ce système qui est reconstruit sur lui-même. Et donc ça se passe à Porte Saint-Germain, vers le Seine, à Argenteuil.
Vous avez le même sentiment? Est-ce que vous partagez votre réaction, Jean-Michel Porcus?
Écoutez, moi, je me pose peut-être d'autres problèmes. Je pense que faut poser les vrais problèmes et les hiérarchiser. Bon, d'abord, aujourd'hui, il faut financer tout ça. C'est bien de se faire plaisir de dire « IACA », voilà, avec un grand débat affectivo-idéologico. Mais le problème, c'est que vous avez dans un pays qui ne contrôle plus son budget, vous avez 150 milliards de déficit budgétaire à 200 milliards. On a du mal à avoir le vrai chiffre. Vous avez un taux de croissance qui a été noté un 4, je crois, dans la loi de finances 2024, qui est tombé à 0,9 déjà et qui va finir quasiment en récession. Parce que l'élite française n'a toujours pas fait la différence entre le PIB marchand et le PIB public. Parce que si vous avez 150 milliards de déficit budgétaire, ça veut dire que vous sponsorisez artificiellement la croissance. Donc votre PIB, il est faux, quand vous dites 0,9. Donc, si vous avez un PIB qui génère plus d'impôts que de recettes, ben, mes chers amis, voilà. Et derrière, ben, tout ce que vous avez décidé, les maires, l'ensemble des collectivités locales, vous avez vu ce qui se passe, on nous réduit, on nous a déjà enlevé la taxe d'habitation, demain, ou alors maintenant, on nous met des réglementations pour faire plaisir aux écologistes. Faut plaire aux écologistes, faut plaire aux écologistes, faut plaire aux écologistes. Bon, moi, je vous avoue que, rassurez-vous, je ne suis pas tombé dans cette naïveté. J'aime bien tout le monde, mais j'ai une entreprise. Pour l'instant, vos entreprises et nos mairies, elles vivent quand même une incertitude maximale.
C'est vrai, rappelle... mais ce que vous dites est vrai. Non, mais attendez, pardonnez-moi, Jean-Michel. Ce que vous dites est vrai en partie. Je m'explique, je dis en partie. D'abord, la vitalité d'une bonne démocratie, c'est le débat. On n'est pas obligé d'être tous du même bord. Et je pense que le préambule qui nous permet de débattre, c'est aussi la bienveillance. Vous avez raison quand vous parlez effectivement de chefs d'entreprise, par exemple, qui sont aujourd'hui à la gorge. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, on va battre des records, là, de défaillance de petits entrepreneurs qui sont à la gorge.
Mais on plaît aux écologistes.
Oui, attendez. Les élus locaux aussi que vous êtes sont aussi soumis à un stress absolument paradoxal. Vous avez raison de rétablir l'équilibre dans votre analyse économique, effectivement. Mais en même temps, je me mets aussi un peu à la place d'un exécutif. Et vous savez très bien qu'une population, pour être dirigée, bien gouvernée, a besoin aussi de certaines certitudes. Et que de communiquer sur une croissance, fût-elle même assez faible, eh ben, c'est déjà plutôt pas mal, dans une certaine mesure.
Mais ça pourrait être exact.
Oui.
Vous savez, si vous voulez créer un climat de confiance, c'est indispensable. Vous savez, il y a... rien ne se fait sans confiance.
Absolument.
Moi, je viens d'entreprise, je ne viens pas de l'écologie, rassurez-vous. voilà, dans l'entreprise. Mais regardez, vous rendez compte, on lance des trucs contre le nucléaire. Alors, vous avez dézingué, enfin, les écologistes, très drôles, ont dézingué le nucléaire. Alors, c'est bien, bravo. Ça va nous coûter 57 milliards.
Il y a Clément qui va dire
on avait déjà un déficit de 150. Boum, mais allons-y. Ensuite, c'est le bâtiment maintenant. Vous avez vu les commentaires que vous font là, l'ensemble des acteurs du bâtiment. On va peut-être être obligé de licencier 100 000 à 300 000. Emploi, bravo, cher ami. Bon, avec des lois complètement, mais d'adolescents, mais vraiment irresponsables. Enfin, qu'est-ce que c'est? Mais d'où ils viennent, ces gens-là? Mais par rapport à nous, moi, je viens de l'entreprise. Je sais pas. J'ai été élu 5 fois maire. On me sort une loi qui a été faite par des gars que je n'ai pas, qui connaissent rien à la réalité de la vie, qui n'ont jamais rien produit, ni une entreprise, ni une loi qui tient la route. C'est simplement se faire plaisir, se narcissiser en refaisant le monde. Regardez, moi, j'ai eu un échange avec Bruno Le Maire. Il vient nous voir pour dire, bon, les gars, on va prendre des mesures maintenant pour économiser l'énergie, etc. Et alors, des trucs assez contraignants. Alors, on l'écoute, etc. Au bout d'un moment, je lui dis, bon, mon cher Bruno, je le connais un peu, j'étais député avec lui. Et je lui dis, mais dis-moi, on fait 0,9 pour le réchauffement de la planète, nous. Est-ce que tu pourrais me dire, est-ce que les autres qui font 99,1, est-ce que tu leur fais passer les mêmes messages? Parce que je viens d'apprendre que les Chinois, ils vous disent, bon, les gars, on va refaire un peu de nucléaire, parce que bon... Et vous découvrez qu'ils refont un peu de nucléaire, mais ils font 10 fois plus de charbon. Ils déclenchent actuellement 10 fois plus de charbon. Et nous, on fait des efforts, vous voyez, mais qu'est-ce que c'est que ce travail d'amateur, là? Bon, ensuite... Vous avez le nucléaire, le bâtiment, l'automobile. Demain, alors on vous pousse la voiture électrique, parce qu'il faut plaire. C'est devenu le rêve, ou je ne sais pas trop. Alors, moi, j'ai rien contre l'électricité. Moi, à 50 ans, on est très décarboné, etc. Bon, on a 600 km de pistes cyclables, on met le paquet que ça. Mais qu'est-ce que c'est que ces discours idéologiques? Moi, je vais vous dire, dans une réunion, un conseil d'administration, quand un type me tient un discours idéologique, je lui demande soit de sortir, soit je sors. Je ne peux plus supporter aujourd'hui, dans l'état de la France dans lequel mon pays est aujourd'hui, il ne maîtrise plus rien, ni ses frontières, ni son budget, ni sa majorité. Et vraiment, qu'on nous rajoute un niveau de contrainte. C'est vous qui avez parlé de simplification. Mais on en est où ? On a dit, on veut de la simplification. Qu'est-ce que c'est que ces conneries toute la journée, régulièrement, que les écologistes nous sortent pour se faire plaisir, pour se narcissiser ? Mais ils ont fait quoi ? Ils ont fait leur preuve où, ces gens-là ? Vous avez vu là, l'état de l'Allemagne ? Il y a une simulation qui vient d'être faite pour les élections européennes. Tous les députés sortants écologistes sont tous battus. Vous pouvez me dire pourquoi ?
Jean-Michel.
Excusez-moi, je suis un peu direct.
Non, mais Jean-Michel, je vais vous dire.
Je suis pas très langue de bois, excusez-moi.
Alors, je vais vous dire, Jean-Michel. Je suis très heureux que vous soyez là. Clément aussi.
Mais je l'aime bien, il est sympathique, Clément,
j'ai pas de problème. Non, mais je vais vous dire. Je suis très heureux que vous soyez là parce que.
Je ne m'entends pas, mais me tape sur l'épaule amicalement.
Avec Jean-Luc, quand on a fait cette émission, on s'est dit, c'est une agora où chacun s'exprime. Tu es d'accord ?
Oui, tout à fait.
Une agora où chacun s'exprime. Moi, j'aime beaucoup votre style. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes symétrique entre votre pensée et ce que vous dites. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Il y a une deuxième chose que j'aime beaucoup chez vous. Vous avez rappelé que c'est votre cinquième mandat. Donc, si vous aviez été mauvais, vous seriez déjà plus là. Donc, vous méritez toute la considération. Et dans ce débat que je trouve extrêmement intéressant, je vais laisser la parole à Clément, parce que là, il faut qu'il dise quelque chose, bien évidemment. Je vous ai vu un peu le cibler, et il a été très fair-play dans l'écoute, je trouve. Et ensuite, on s'exprimera avec Jean-Luc. Clément, une réaction.
Bon, je ne suis pas d'accord. Mais ça, c'est pas très étonnant. Je ne suis pas d'accord parce que, je ne m'attendais pas, à vrai dire, à encore avoir un débat en 2024 de ce niveau. Sur les enjeux environnementaux mondiaux. Je suis vraiment étonné. Moi, je suis élu alors depuis moins longtemps que vous, chers collègues. Moi, c'est mon premier mandat de maire, pas cinquième. D'ailleurs, je pense que la limitation des cumuls des mandats dans le temps, ce serait une bonne chose. Il ne faut pas rester trop longtemps élu. Élu, ce n'est pas une profession. Élu, c'est un investissement sur un moment donné. Et après, on passe la main et on se remet en cause. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des certitudes, c'est bien. De la diatribe, c'est moins bien. Donc, bon, vous dire que moi, simplement, je lis les rapports. Je lis les rapports du GIEC, voilà. Tous les experts internationaux du climat, ils sont tous d'accord, ou presque, à 99%. Voilà. Et donc, ils nous disent que si on fait rien pour le climat, ça va être très compliqué. Très compliqué. Bordeaux, en 2050-80, on va avoir le climat de Séville. Et on ne fait rien. Il y aura des grosses tensions sur l'agriculture. On va avoir des grosses tensions sur l'élévation du niveau de la mer. On va avoir l'arrivée de nouvelles maladies. L'économie n'est pas prête. L'ensemble de nos logements non plus. Donc, soit on anticipe, et ça, on est tous d'accord, élus, c'est aussi anticiper, c'est gérer le quotidien et anticiper. Donc, ils nous disent, depuis 1972, le Club de Rome, on alerte sur les enjeux climatiques et rien ne se passe. Donc, il ne faut pas cibler les écologistes, en ce cas, cibler les scientifiques. Dites aux scientifiques qu'ils se trompent.
Et quels sont les résultats
et démontrez
l'impact de vos mesures.
Après, mais que.
Études d'impact de vos mesures.
Après,
sur le réchauffement. Vous cassez la croissance. Bon, ça y est, on a vu l'effet, mais est-ce qu'il y a un autre effet ?
Jean-Michel, laissez Clément s'exprimer.
Et après, je pense que les écologistes, on n'est pas dogmatiques. Moi, une des premières décisions que j'ai prises récemment sur un quartier qui s'appelle le quartier Euratlantique, 700. 38 hectares à aménager, accueil de 50 000 nouveaux habitants et 30 000 nouveaux emplois. Donc pas que sur Bègles, sur Bordeaux et sur Florac, trois communes. C'est sauver une papeterie. J'ai sauvé une papeterie. Alors, c'est ce que vous disiez, chers collègues, on a un problème d'industrialisation en France. Le groupe qui était propriétaire de sa papeterie dit nous, c'est pas rentable, je me désengage, on va vendre le foncier. Mais non, on s'est battu avec le préfet, avec le président de région, avec le président de la métropole.
Pour maintenir l'activité.
Pour maintenir l'activité, on a trouvé un repreneur français. Il est en train d'installer la première ligne de production début mars, là, en ce moment.
Et combien d'emplois ?
Alors, on va avoir plusieurs centaines d'emplois, mais de l'activité productive en plein cœur de Bordeaux Métropole, en plein cœur de Bègles. Et moi, les habitants me disaient « Ah non, les camions, tout ça, on n'en veut plus, nous... » la papeterie qu'elle aille en Chine. Non, elle reste sur Bègles.
Bah oui.
Donc vous voyez, je donne un exemple. Voilà. Donc on n'est pas.
Le BTP se prépare à virer 300 000, entre 100 et 300 000 emplois.
Et puis après, ne mettez pas sur les épaules des écologistes de tous les malheurs du monde. J'ai les épaules larges, Clément, soit, mais là, quand même.
Jean-Michel, Clément, on va faire circuler la parole librement. Et je me demandais à notre ami Jean-Luc, pensez-vous d'intervenir justement sur ce sujet extrêmement intéressant. Et ensuite, Camille prendra la parole.
L'entreprise que je représente est, Camille, pour reprendre ce que vous disiez dans vos propos introductifs, au cœur de l'injonction contradictoire que vous représentez sur ce plateau. Nous, on part, et je crois que le sujet est partagé par l'ensemble de la société française, il y a un besoin de logement en France. Il y a un besoin de logement parce qu'il y a du mal logement, il y a des conditions parfois, on va dire...
De décohabitation.
Il y a aujourd'hui
plus âgés aussi,
les évolutions sociologiques qui font que les familles décomposées, recomposées... Enfin, le besoin de logement, il existe partout et par ailleurs dans certains territoires. Je prendrai l'exemple de Penly, où il va y avoir un énorme besoin. Alors, je vous regarde, M. le maire de Bègles, parce que c'est derrière des petits EPR, mais il va y avoir un énorme besoin de logement. On pourrait prendre les Gigafactory à Dunkerque. On pourrait prendre, dans la grande couronne francilienne, la même chose, ou à Argenteuil, des politiques de réindustrialisation, de préservation de l'outil industriel, et qui vont amener un besoin de logement, parce que Habitat indigne et tout un tas de transformations nécessaires. Et je dis, on est au cœur de ces espèces d'injonctions contradictoires, parce que nous sommes une entreprise. Il faut qu'on, à la fois, on réponde à ce qui est notre métier, c'est-à-dire l'aménagement et l'acte de faire la ville. Et en même temps, il faut qu'on tienne compte de nos partenaires. Vous citiez les collectivités locales. Un des sujets difficiles aujourd'hui, indépendamment des propos que vous avez eus les uns et les autres, c'est les finances des collectivités locales et les coûts induits par l'acte de construire. Quand on construit, quand on développe, quand on aménage, un peu moins quand on aménage parce qu'il y a des participations, il y a éventuellement des pubs, mais quand on lance des opérations immobilières, ce sont des nouveaux habitants, et derrière les nouveaux habitants, parfois ce sont des enfants, et donc derrière ce sont des écoles, derrière ce sont des ASEM, et ainsi de suite. Et on sait que l'évolution de la fiscalité locale, ou l'incapacité aujourd'hui d'avoir de l'autonomie fiscale, ça a une incidence directe sur nos métiers. Après, il y a ces évolutions qu'on doit anticiper, et là j'aurais un tout petit différent par rapport à ce que vous disiez, monsieur le maire de Bègles. En fait, chacun des sujets que l'on peut développer, nous, dans nos métiers d'aménageurs, que ce soit sur une friche industrielle, que ce soit sur un quartier de gare, que ce soit dans une entrée de ville, chaque fois, c'est une typologie, un projet particulier et des problématiques particulières. Je suis très attentif à quand on parle de la ville du quart d'heure, mais la ville du quart d'heure, par exemple, elle doit être aussi accessible dans les villes moyennes. Et c'est beaucoup plus compliqué parce que le cœur de la métropole, il ne peut pas être dans une ville du quart d'heure. Et ce qui est une qualité d'habitat, une qualité de vie, la ville du quart d'heure, dans des zones denses, doit aussi se décliner dans des villes moyennes. Là, moi, je suis très attaché à l'aménagement du territoire parce que je pense que c'est un socle politique d'égalité sur l'ensemble du territoire national et que je suis très attaché à l'aménagement dans les bassins de vie ou dans les zones urbaines parce que derrière, c'est de la solidarité, c'est de l'équilibre et c'est du développement et c'est de l'environnement. Néanmoins, quand on réfléchit à des concepts ou à des mises en œuvre comme la ville du quart d'heure, et ben dans des villes moyennes de province, c'est extrêmement compliqué. Donc c'est autre chose qu'il faut inventer, qu'il faut travailler. Ça repose toujours pour nous sur l'habitat, la qualité de l'habitat, les services publics, le monde économique, parce que on peut. Moi, je travaille beaucoup sur des friches industrielles, parce qu'aujourd'hui, les territoires de développement et de transformation, ce sont soit les entrées de ville, soit les friches industrielles, soit les quartiers de gare. Et on voit bien qu'à chaque fois, on a l'évolution des territoires qui est en jeu, on a la mobilité qui est en jeu, et on a l'artificialisation qui est en jeu. Aujourd'hui, les entrées de ville sont, et on en a partout en France, les nouveaux territoires de l'aménagement, parce qu'on ramène de la ville là où il n'y en a pas, on transforme du monofonctionnel qui date de quelques décennies en zone ou en extension de la ville, et on ramène de la nature en ville parce qu'aujourd'hui c'est que du goudron. Donc ces sujets-là, ces trois sujets, friche industrielle, entrée de ville, quartier de gare, c'est trois sujets sur lesquels on transforme la ville. Vous le disiez tout à l'heure, on transforme la ville avec en partie le déjà là. Mais en même temps, l'extension de la ville n'est pas non plus totalement une aberration. Moi, je défends, parce que ça fait partie de mes métiers, aussi l'habitat individuel. Peut-être qu'il faut travailler différemment la densité, mais on ne peut pas non plus aller à l'encontre ce que parfois nos concitoyens veulent, enfin tout simplement.
Je vais vous donner un chiffre, 87%, n'en déplaise à tous, ont plébiscité l'accès à la propriété et la maison individuelle. Donc, il y a aujourd'hui une masse de personnes qui préfèrent la maison individuelle.
Quand tu dis ça, moi je te coupe, mais quand tu dis ça, moi je mets deux choses en parallèle. On doit travailler la densité et la, le logement désirable en densité.
D'accord.
L'histoire de France, la densité, ça renvoie à des quartiers aujourd'hui dits politiques de la ville. Ça renvoie à des tours. La zone pavillonnaire, c'est une qualité de l'habitat. On doit travailler la densité de l'habitat pavillonnaire, mais on ne doit pas être... Alors, nous, en entreprise, on ne prend pas parti par rapport à vos débats, même si on est acteur de la société et qu'on défend dans nos entreprises et chez Nexity avec Véronique Bédag beaucoup la trajectoire climatique et environnementale. Ça fait partie de notre ADN. Néanmoins, on ne prend pas parti dans ces débats politiques. Néanmoins, on défend aussi l'habitat individuel parce que ça fait partie du socle de la sociologie française. Ça fait aussi partie de l'histoire de l'accès à la propriété. Sur une chose, là où c'est embêtant aujourd'hui, c'est qu'on ne permet plus à nos concitoyens de rentrer dans des parcours résidentiels. Et des mesures récentes de fin du PTZ, en fait, empêchent aujourd'hui jeunes et des classes défavorisées de rentrer dans des parcours résidentiels.
Absolument.
Et on construit à moyen terme vraiment, on va dire, des problématiques qu'on pourrait éviter.
Moi, je pense que le dénominateur commun, il est vraiment là. Hein. Il y a un vrai sujet, là. Il a absolument raison, Jean-Luc Porcello. Réaction, parce que là, on a grippé, effectivement, le parcours résidentiel, même si on plébiscite, finalement, l'accès à la propriété en maison individuelle. Et je trouve, je trouve qu'il n'y a pas d'opposition entre le fait qu'on puisse avoir une maison individuelle, peut-être... Tu l'as dit d'ailleurs très justement, c'est une façon de densifier, peut-être une interprétation, on n'est pas obligé de condamner un modèle parce qu'on trouve qu'il est éculé par ailleurs. Camille Jiquem.
Alors moi j'ai parlé d'un des quartiers d'Argenteuil tout à l'heure pour montrer un exemple concret de ce qu'on pouvait faire sur l'aménagement d'une ville durable.
Mais aussi un avis sur ce que nous a dit Jean-Michel Pourgousse qui est important parce qu'il incarne aussi, Jean-Michel Pourgousse, un courant dans lequel il y a une forme d'exaspération et je peux le comprendre dans une certaine mesure. Par rapport à des décisions dont on ne comprend pas réellement le bon sens.
Mais bien sûr, puisque en tant que qu'élu, on doit faire toujours plus, avec toujours moins, et on est petit à petit déplumé. Sur tous les pans, que ce soit sur le logement,
sur la sécurité. Mais surtout que ceux qui cet environnement délétère, normatif, on peut parler d'inflation normative qui pèse lentement, on ne trouve pas le bon sens dans tout ça. C'est-à-dire que si encore une fois, ça avait une incidence très concrète et que ça produisait réellement quelque chose de positif, on serait tous d'accord, mais ce n'est pas le cas. Donc il y a forcément des gens qui pensent là-bas, à Paris, dans les ministères, des choses sur lesquelles ils ne touchent absolument pas terre.
Ce qui n'empêche pas une ville, par exemple comme Argenteuil, de travailler sur l'étude globale de l'habitat et d'avoir une vision très précise des besoins actuels de la population et futurs des futurs habitants basés sur des statistiques pour justement anticiper la ville du futur. Deux choses, parce que je parlais tout à l'heure et on n'a pas assez parlé de biodiversité dans notre échange parce qu'on a parlé un peu d'espace public en propos introductif, mais nous, ville, métropole du Grand Paris, région Île-de-France, on investit massivement sur la désimperméabilisation et on prend notre part de ce besoin-là que l'on a. On aménage 8 hectares de parc à Argenteuil, on investit sur l'avenue principale Gabriel Péri 17 millions d'euros pour justement désimperméabiliser à 25% et planter 400 arbres et arbustes. Ça, c'est la partie. L'autre vecteur de désimperméabilisation et de biodiversité, c'est justement sur le privé. On parle des pavillons, c'est quand même un gros vecteur de biodiversité, pavillonnaire, énorme vecteur. Et on voit aujourd'hui des espèces d'oiseaux et des espèces végétales que l'on ne voit pas ailleurs en ville. Il faut les préserver. Donc la densification pavillonnaire aujourd'hui, il faut y veiller quand même parce que c'est là où on doit avoir notre rôle de garde-fou. Et l'autre gros vecteur de biodiversité, c'est justement sur ces zones d'activité économique où c'est là qu'on gagne le plus d'espace public et le plus d'espace de désimperméabilisation. Par contre, il faut reprendre effectivement sur le parcours résidentiel, revenir aux basiques. La pyramide de Maslow, par exemple, où il y a effectivement les limites de l'exercice, mais le besoin de base, c'est quand même de se loger. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est quand même d'avoir des villes qui aient le logement pour tous, quels que soient les besoins. Aujourd'hui, typiquement, sur les quartiers résidentiels, les quartiers pavillonnaires à Argenteuil, on vient pourquoi ? Pour avoir une maison, un jardin, à quelques kilomètres seulement de Paris. Il faut les préserver. Mais c'est pas non plus sacrifier le logement pour des personnes qui ne peuvent pas forcément y accéder, parce que ça implique quand même un étalement. Donc il faut aussi construire du collectif, mais il faut le construire mieux et différemment. C'est complètement un changement de paradigme aujourd'hui, et c'est là-dessus qu'on a besoin d'accompagnement, et c'est aussi là-dessus qu'on a besoin de planification. Et on a besoin de planification plutôt nationale, et d'avoir un véritable cap 2030-2050, et qu'on sache où on aille, budgétairement parlant aussi, parce que derrière, on a des contraintes et on a des chiffres qui donnent le tournis aujourd'hui. Mais nos habitants, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est de savoir quand ils sortent de chez eux, est-ce qu'ils sont en sécurité ? Est-ce qu'ils ont un toit sur la tête à proximité de leur logement, de leurs emplois, et vice-versa ? Et c'est ça aujourd'hui. Et la décarbonation de la ville, elle passe aussi par là, parce que c'est moins d'utilisation de la voiture, c'est moins de trajets et d'infrastructures nécessitant tout ça. Et c'est cette économie et cette écologie qu'on a besoin d'aller chercher aujourd'hui. Et c'est pas de l'écologie dogmatique. C'est pratico-pratique, et c'est le bon sens paysan dont je parlais tout à l'heure.
Alors, je suis d'accord avec vous, mais permettez-moi aussi d'avoir une opinion. Parfois, je vous le dis, parfois, on a l'impression d'une écologie un peu punitive, un peu confiscatoire, qui ôte les trucs. Donc, on peut comprendre dans un dialogue que parfois, on a cette impression, perception réelle ou pas, en tout cas, on a cette perception. Une réaction, Jean-Michel Provost ?
Oui, j'avais oublié pour notre ami très sympathique qu'en fait, les écolos avaient aussi cassé l'agriculture quand même, hein, puisque vous avez quasiment divisé par deux le nombre d'agriculteurs, mais avec des lois complètement d'un autre âge.
Mais faut qu'on vous invite à chaque émission.
Mais cela dit, moi je reviens. L'histoire du logement, on va se dire les vérités là. Vous savez, quand on est maire aujourd'hui, il va falloir dire les choses telles qu'elles sont. À force de chercher les mots pour modérer son ton, pour séduire qui ? Le logement. Le problème du logement, c'est qu'il va falloir à un moment donné dire qu'est-ce que ça veut dire. Un pays qui est à genoux économiquement, on est en dépôt de bilan, vous le savez très bien, puisque on emprunte, on a du mal, on paye les intérêts d'emprunt avec un nouvel emprunt. Bon. Donc voilà, on ne peut plus financer notre modèle social aujourd'hui. On le finance artificiellement. C'est-à-dire que vous le financez avec de nouveaux impôts. Vous n'arrivez pas à rembourser vos impôts et vous générez de nouveaux impôts. Bon. Si vous mettez à genoux votre système social et que vous mettez, alors vous êtes quand même partisan de la décroissance, je suppose, comme vos potes, la décroissance. Alors si en plus vous rajoutez la décroissance, remarquez, vous avez gagné, je crois, parce qu'on n'est pas loin de la décroissance, là, donc du PIB marchand. Hein. Donc bravo, félicitations. Mais comment vous allez perdre votre indépendance d'abord vis-à-vis de Bruxelles. C'est eux qui vont diriger la France. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Rassurez-vous. Bon, donc il faut bien, il faut. Et le logement. Alors le logement. Alors le problème du logement. On parle du problème du logement, puis en même temps, on n'arrive pas à trouver à loger tous les gens qui sont sur notre territoire. Et vous laissez rentrer entre 500 000 et 800 000 personnes qui arrivent. Donc on a comme but de, comme disait Michel Rocard, de bien sûr, est-ce qu'on peut recevoir toute la misère du monde en France ?
Ça, c'est une partie de sa phrase. Hein. Il y avait une deuxième partie dans sa phrase.
Oui. Bon, bah, en tout cas, je me suis limité.
Voilà.
Je me suis limité.
À la hauteur de nos moyens.
Oui, mais enfin, à la hauteur de vos moyens. Alors, ça, très bien, vous avez raison de dire ça, à la hauteur. Vous n'avez plus de moyens, puisque vous n'avez même pas les moyens d'intégrer les gens qui sont en France. C'est clair, et c'est dramatique. Vous vous rendez compte, tout ça, c'est payé à crédit. D'ailleurs, se le dit même le Grand Paris. J'aime bien le Grand Paris, mais le Grand Paris, tout ça se fait par un grand emprunt, vous le savez. Bon. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous savez que vous ne pourrez pas rembourser vos 3200 milliards de dettes, qui va passer très vite à 3300, 3400. Donc, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire de s'endetter aujourd'hui, de lancer des trucs ou vous endetter ? Puisque tout ça, vous savez que c'est artificiel, c'est vos enfants qui vont payer, c'est pas très sympa vis-à-vis d'eux. Donc voilà, le logement, est-ce qu'on pourrait déjà à un moment donné dire, bon, est-ce qu'on ose parler d'un problème qui s'appelle l'immigration sans se faire traiter de nazi, de je sais plus trop quoi, ce qu'on entend. Enfin bref, c'est un problème dans tous les pays, puisque vous avez vu dans toute l'Europe aujourd'hui, les projections sur les votes aux élections donc européennes sont assez significatives. Vous avez encore vu le vote qui a eu lieu en Portugal dimanche dernier.
C'est pas législatif. Hyper, c'est pas hyper rassurant.
Législatif,
quand même,
hein. Oui, mais attendez. Vous pouvez dire ça.
Non, mais je
vous
dis.
Vous pouvez dire ça, mais moi, je regarde la réalité. Vous savez, moi, les analyses.
J'ai fait
un minimum d'études, je sais sortir un vocabulaire aussi
Jean-Michel Corbouze, c'est pas une analyse. Je vous donne mon avis. Je trouve pas ça rassurant.
Mais quand on a dit ça, oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Non, mais je trouve pas ça rassurant. Par contre, ça symbolise. Là où vous avez raison.
Ça symbolise le problème, ça veut dire qu'on ignore un problème.
Ça symbolise.
Les Français, ils vous disent, regardez ce problème, vous dites, c'est grossier.
Non, pardonnez-moi, je vous le dis, ça symbolise simplement le fait qu'il y a un mécontentement, une accumulation, une amertume dans l'opinion.
Pourquoi ?
Qu'il y a un mal-être. Attendez, qu'il y a un mal-être. Attendez, je vais vous dire. Si on dit, par exemple, que les mots européens sont uniquement liés à l'immigration, c'est réduire le problème à sa plus simple expression. Pardonnez-moi, je vous
c'est
le
faux,
dis, mais je vous le dis. Je vous le dis parce que c'est...
C'est complètement faux.
C'est
complètement. Vous êtes
non, mais, non, mais c'est faux. Non, mais je suis pas obligé d'être écologiste pour dire que c'est faux.
Vous connaissez la théorie des 3 I. Les 3 I, c'est ce qui va faire gagner Marine Le Pen. Je vous explique comment ça se passe.
Vous avez déjà le discours de Marine Le Pen. Donc
mais voilà, voilà, voilà. Je dis des vérités, voilà. Vous avez le discours.
Non, mais attendez. Mais,
il y a 50% des Français qui vont apprécier ce que vous dites.
Jean-Michel, écoutez-vous. Je vous dis des vérités. Donc vous êtes persuadé que vous avez la vérité.
Mais oui, parce que moi j'ai 5 mandats dans les pattes.
Donc nous on se trompe.
J'ai 5 mandats dans les pattes, ce qui n'est pas votre cas. Non. J'étais chef d'entreprise, j'étais président à l'Assemblée nationale du groupe PME.
Je vous rassure, Clément Puech n'est pas responsable de tout dans le pays.
Oui, mais moi je ne parle pas pour donner le son, je vous dis, je parle de mon expérience. Bon, l'expérience, vous savez, il n'y a pas de compétence sans expérience, d'accord ? Bon, et moi j'ai une expérience économique. Quelqu'un, un politique qui ne sait pas parler d'économie, qui ne soucie absolument pas d'équilibrer les comptes, qui fait des déclarations sans étude d'impact, qui lance des idées complètement folles, et vous vous retrouvez, je vous dis, mais l'agriculture, j'étais sympa, je n'en ai pas parlé, mais l'artificialisation, par exemple, qu'est-ce que c'est que cette fumisterie ? Mais est-ce que vous avez fait, la moindre étude d'impact avant d'aller paralyser le monde du bâtiment avec ça ?
Le débat part un peu loin.
Voilà.
Bon,
voilà.
Alors... On s'y attendait pas vraiment. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, on s'accroche, on écoute.
Voilà.
Et
on
réagit. Et parlez vrai. Parlez de votre expérience.
Il n'y a pas eu un seul ministre de l'agriculture écolo. Donc je vois pas pourquoi on serait responsable de la politique agricole de la FNSEA.
Bon, enfin, bon, Clément, je ferme la parenthèse, Clément, on ne va pas y arriver. Vous ne l'êtes pas, et Jean-Michel se trompe quand il le dit. Moi je vous le dis.
Alors, sur les enjeux d'aménagement durable. Ah, on va revenir, excusez-moi.
Ça, c'est un sujet vachement concret en ce moment, les gars.
Oui. Bah. Non, mais c'est intéressant. Alors, attendez.
Mais parce que...
Je vous donne le temps que vous voulez. Vous savez quoi ? Je vous donne c'est moi le patron ici, donc je vous donne le temps que vous voulez. Vous l'aurez le temps, vous aussi Jean-Michel, parce qu'encore une fois, on est en démocratie. Je vous dis la chose suivante. C'est intéressant parce qu'on a abordé une notion d'aménagement du territoire. Vous avez vu ce que ça suggère comme question, comme réaction. Mais ces réactions-là ne seront jamais anodines. Elles ne sont jamais anodines. Pourquoi ?
Alors, ce qui guide mon action de maire, c'est 3 enjeux. Il y a l'enjeu de la transition écologique. Parce que c'est nécessaire. On n'a pas le choix. Voilà, on a une seule planète. On a des ressources qui sont limitées. Donc oui, je suis pour la sobriété.
On est tous d'accord.
De l'utilisation des ressources.
Moi, je pense qu'on est tous d'accord.
Est-ce que si on appelle ça la décroissance ? Bon, bah, appelons ça la décroissance. Mais je ne suis pas décroissant. Moi, je suis pour le...
La sobriété n'est pas décroissance.
Ben voilà. Donc moi, je suis pour la sobriété. Voilà.
Bon. Réponse. Okay.
Deuxième
sujet. C'est un joli mot.
Voilà. Deuxième sujet. Je suis pour la justice sociale. Il y a les classes moyennes, elles commencent à décrocher.
Il y a quelqu'un qui est contre la justice sociale, là.
Mais vous n'en parlez, Jean-Michel. Non, mais attendez, laissez-le parler.
Dit des politiques sociales ambitieuses.
On est d'accord.
Pour celles et ceux qui en ont le plus besoin.
Moi, je vous suis jusque-là.
Et au niveau de l'État, au niveau des recettes, par exemple... la fraude fiscale, ou
l'accumulation. Et la fraude sociale aussi.
Alors c'est 10%. Voilà. Il y a 90%, 10%.
On n'a pas les mêmes chiffres.
Ouais. Et ben, vous voyez. Enfin, il y a
50 milliards la fraude sociale.
Et ben, il y a beaucoup plus de fiscal, vous verrez. Et donc, également.
C'est très idéologique.
Il y a
ça, hein.
Des. Non, prenez les chiffres. Il y a aussi les.
Non, quand, n'exagérez quand pas. Il a raison.
Il confond optimisation.
Non.
Avec fraude fiscale.
Bon, on s'éloigne du sujet, là.
Bon. Et deuxième sujet, c'est les enjeux d'accumulation de richesses en France. Mais pas qu'en France. Voilà. Donc là, il y a des marges de manœuvre.
Vous êtes d'extrême gauche.
Et le troisième sujet, c'est les enjeux démocratiques dans notre pays. Voilà. On sent bien qu'il y a la tentation populiste dans tous les pays occidentaux. Les élections européennes qui arrivent, et il y a un vrai enjeu. Et
donc, regardez la carte de l'Europe, ça se voit partout.
Mais pas qu'en Europe, tous les pays occidentaux. Hein, voilà. Bien.
On est d'accord.
Voilà. Et même l'aménagement durable,
vous pouvez rajouter Trump, derrière.
Attendez, Jean-Michel, on laisse parler.
Trois défis, voilà. Et donc, l'aménagement durable, ce qui est derrière, c'est on peut démontrer qu'il y a des solutions qui existent, qui sont concrètes et qui sont pragmatiques. Voilà. Donc moi, j'ai développé des solutions pour les métropoles, parce que moi, je suis un élu de métropole, et je suis d'accord qu'il y a d'autres solutions à mettre en place pour les villes moyennes, qui ne sont pas les mêmes, ou pour la ruralité, qui ne sont pas les mêmes non plus. Moi, je parlais pour les grosses métropoles, voilà, entre 500 et 1 million d'habitants, voire plus. Là, oui, Bon, donc c'est tout ce que je développais en préambule. Après, il faut travailler aussi la coopération, fortement, entre les métropoles et les villes moyennes autour. Par exemple, il y a le projet de RER métropolitain pour un certain nombre de métropoles, pour aider à développer toutes les gares des villes moyennes.
C'est une super initiative, moi, je trouve.
Et pour, ouais. et pour venir apporter de l'emploi et des logements autour de ces gares, pour éviter que les gens fassent toujours la navette.
Absolument.
40 km, 50 km, aller, donc fois 2, donc
on
100 km par jour.
On est tous d'accord.
Non, on n'est pas tous d'accord. Parce que ça veut dire que ces villes moyennes, elles devront accepter des formes urbaines autour de leur gare.
Mais c'est ce qui va se passer.
15 000,
c'est irréversible. C'est irrésistible et irréversible.
Et bah oui, mais
je suis content que vous ayez un point d'accord.
Voilà.
On va devoir conclure, on a 5 minutes encore.
Exactement.
Puisque la collaboration foncière entre les villes est aussi possible, c'était d'ailleurs l'un des sujets évoqués sur le forum des élus du MIPIM ce midi.
Exactement.
Où justement, on a évoqué, et c'est un projet qui est développé entre Saint-Dizier avec GPA, pour la collaboration foncière entre des grandes métropoles qui ont un foncier rare et cher. Et effectivement, on n'a pas l'argent aujourd'hui pour aller développer certains fonciers, sachant le prix du foncier ici, en zone dense, comme sur le territoire boucle nord de Seine, par exemple, et qu'il y a des villes aujourd'hui qui ont besoin d'avoir cet équilibre économique qui est trouvé avec les grandes métropoles.
Absolument.
Des villes qui sont davantage rurales. Et il y a aussi la coopération en matière de développement économique. On est tous aujourd'hui dans le même bateau, on a besoin d'un schéma directeur national sur la réindustrialisation, et on est plusieurs territoires, plutôt que d'être en concurrence aujourd'hui, on peut être très complémentaires, que ce soit sur des grandes usines, quand il y a des territoires qui ont des espaces, que ce soit sur de la fabrication distribuée, parce qu'on parle beaucoup de logistique urbaine notamment, mais l'un des sujets sur la logistique urbaine, c'est aussi la fabrication distribuée, c'est-à-dire qu'on ne transporte plus, mais on fabrique à proximité d'eux. Et ça, c'est un vrai sujet. Et ça, c'est un vrai sujet de réindustrialisation sur nos territoires. Et ça, cette collaboration, elle peut aussi se faire entre les villes, entre les grandes métropoles, entre les franges des grandes métropoles et entre les villes rurales.
Merci Camille. On va devoir conclure. Un mot, Jean-Luc Porcelo, pardon.
Alors, moi, je ne vais pas me prononcer sur tous les échanges qu'ont eu, messieurs les maires.
Pour synthétiser.
Je dirais que c'était le sujet de notre table ronde. L'aménagement est structurant. Il est structurant au niveau national, et je fais partie de celles et ceux qui regrettent qu'on ait abandonné progressivement l'aménagement du territoire au niveau national. Ça a été structurant pendant des décennies, ne serait-ce que sur des infrastructures de transport. Que serait la France si on n'avait pas investi sur des infrastructures de transport TGV qui ont irrigué le développement des territoires ? Irrigué. C'est la même chose, alors avec au détriment du train du quotidien, bien sûr. Mais après, excusez-moi, votre job d'élu, locaux ou nationaux, de faire ces choix-là. Oui, il faut le financer, monsieur le maire d'Elancourt. Vous disiez le Grand Paris. Le métro parisien, il ne s'est pas fait comme ça en 5 minutes. Il y a eu un investissement public sur un remboursement sur des décennies, voire des centaines d'années, pour permettre ce qui est le meilleur réseau de transport du monde. Et la Société du Grand Paris, c'est un emprunt européen. Et je crois, sans que ce soit mon métier, que l'utilisation de deniers publics sur des investissements structurants, c'est, ça garantit un avenir, on va dire radieux, j'espère, mais ça garantit un avenir. Et au niveau des villes, c'est la même chose.
C'est quoi un emprunt européen ?
C'est un emprunt au niveau de Bruxelles sur un financement européen pour une infrastructure de transport. Ça n'aurait pas pu être fait de la Société
Grand Paris. C'est les Français qui vont rembourser, c'est pas l'Europe.
Bien sûr, mais
la caution de Christine Lagarde, très bien.
Vous savez bien, monsieur le maire, qu'un emprunt pour de l'investissement, c'est pas la même chose qu'un emprunt pour du fonctionnement. Quand on va jusqu'au bout de ce qui est notre métier, nous, l'aménagement sur des territoires, on va dire urbains, périurbains et ruraux, c'est aussi une manière de, on va dire, d'anticiper et de préserver, on va dire, le bien-être. Mais ça, c'est vous, entre guillemets, avec vos électeurs, d'anticiper le bien-être de nos concitoyens, de vos administrés, à partir d'objectifs. Et c'est en ce sens-là où je crois que l'aménagement, pour revenir à notre thématique, et un levier déterminant sur la projection de la ville durable.
On va devoir se quitter. On n'a pas le temps de faire plus longtemps. On pourrait le faire plus longtemps sur des sujets plus globaux de préoccupation des élus locaux. Moi, je suis content que vous ayez trouvé un point d'accord, tous les deux, donc c'est déjà très bien. On a fait un gros progrès. En tout cas, ne changez rien, puisque l'expression populaire... Il faut se dire une chose, et je vais conclure. Il faut se dire une chose, c'est qu'on vit dans un pays où l'expression est possible. On vit dans un pays où on peut s'exprimer dans une agora sans forcément s'écharper et s'étriper. C'est pas le cas dans certains pays d'Europe où la moindre expression au contraire suscite absolument des volées absolument phénoménales et dangereuses. Moi, je dis que c'est pas rassurant, Mais c'est un contexte géopolitique auquel on devra faire face. Il faudra donner des réponses, d'ailleurs, au peuple d'Europe, et notamment aux Français eux-mêmes. Vous avez raison quand vous dites, effectivement, qu'à un moment donné, il faut s'arrêter et qu'il faudra bien passer à la caisse, bien évidemment. Mais je reprendrai aussi la phrase du général de Gaulle qui disait qu'au-delà de ces notions-là, il faut aussi avoir une vision du monde tel qu'il pourrait être. Et cette idée que défend Clément notamment, ou sur laquelle on a bien compris qu'on n'avait pas de planète secondaire et qu'il fallait bien qu'on continue à vivre ensemble, nonobstant le fait qu'on a un climat quand même délétère, parce que c'est pas neutre, hein, ce qui va se passer à Bordeaux en 2050 ou en 2080, c'est pas neutre du tout, et ça l'est pas pour les plus pauvres
c'est
d'entre nous.
C'est pas Bordeaux, c'est le reste du monde.
Oui, non mais le reste du monde, mais on fait partie de ce monde-là, Jean-Michel.
Oui, mais on si on n'a aucune influence, qu'on dit, ça sert à rien.
Oui, non, j'y crois pas, parce que
montrez-moi une étude d'impact de toutes les mesures qu'on applique. Je l'ai posé la question à Bruno Le Maire. Je lui ai dit, tu pèses 0,9. Il m'a dit, oui, c'est le vrai problème, Jean-Michel.
Non, mais
c'est que les 99,1%, on ne les maîtrise pas.
Mais
c'est ça le vrai problème.
Mais alors,
le reste, c'est du pipeau.
Il faudra donc assumer cette réalité politique. Parce que si vous y étiez, vous, aux affaires, Jean-Michel, alors c'est facile, vous critiquez de votre côté. C'est très bien, pas de problème. Si vous, vous êtes aux affaires à la place de Bruno Le Maire, que vous connaissez bien, vous avez été député avec lui. Qu'est-ce que vous feriez ?
Mais oui, je l'aime bien, c'est pas le pire.
Non, mais attendez, vous faites quoi ? Demain, vous êtes aux affaires, vous êtes à Bercy. Qu'est-ce que vous faites ?
Moi, je commence à défiscaliser massivement les investissements productifs. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais
attendez,
c'est la seule porte de sortie.
Je sais très bien ce que ça veut dire, mais ça va avoir quel effet ?
On arrête les décroissances, ces conneries, et on fait de l'hypercroissance. Vous passez d'une vraie et une hypercroissance du PIB marchand. Vous le placez à 3%. Vous avez le potentiel. Il y a de l'argent dans ce pays. Simplement, il faut leur donner une incitation fiscale à mettre cet argent sur l'entreprise. L'entreprise, c'est magique. La porte de sortie de la France, la solution de la France, c'est l'entreprise,
ce
c'est pas l'État.
Ce
n'est pas des mesures à la con comme on applique en ce moment.
Bon, on va s'arrêter.
Non, mais je dis ça avec humour.
Non, il n'y a pas de problème. Oui, regardez, je suis très détendu, il n'y a pas de souci. Et encore une fois, tout le monde peut s'exprimer ici sur ce plateau. En tout cas, tant que j'y serai, je peux vous dire que j'y veillerai personnellement. En tout cas, merci d'y avoir participé et merci de votre passion. Je rappelle Jean-Michel Fourgous que vous êtes le maire d'Élancourt, président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Merci et surtout changez rien, c'est intéressant de débattre avec vous. Voilà, total respect pour Clément Rossignol-Puech, d'une placidité extraordinaire. Merci.
Il est très sympathique en plus.
Merci. Écoutez, il y a des écologistes sympathiques.
Mais bien sûr. Voilà.
On vient de découvrir quelque chose. Merci en tout cas d'avoir partagé ce moment. Vous êtes maire de Bègles, vice-président de Bordeaux Métropole et président de l'EPA de Bordeaux Euro-Atlantique. Et d'ailleurs, vous avez dit une chose très juste tout à l'heure, quand vous avez parlé de cette papeterie que vous avez sauvée. Vous n'avez pas sauvé que de la papeterie, vous avez sauvé des emplois qui vont avec. Juste pour ça, eh bien, vous méritez les applaudissements du public. Bien évidemment, c'est d'ailleurs une chose que l'on s'empressera de faire. Merci Camille Jiquel, voilà, adjointe en charge de l'urbanisme à la mairie d'Argenteuil. Merci encore une fois. On se connaît bien, donc elle est extraordinaire, ne changez rien. Vice-présidente de Boucle Nord de Seine et membre du comité d'administration de Tchouz Paris Région. On a beaucoup de boulot devant nous dans un pays, justement, pour échanger nos idées avec un fil conducteur qui est quand même d'améliorer la vie des Français. Encore merci. Au président de Ville et Territoires, Transformation de la Ville, c'est ce que vous incarnez, c'est Jean-Luc Porcédo. Merci encore une fois.
Merci.
Parce que c'est vous qui avez permis ce débat extrêmement intéressant. Vous n'y attendez pas, vous non plus.
Ah non.
Eh bien, moi non plus. Mais on a passé quand même un très bon moment. Je vous souhaite un excellent MIPIM, mais on enchaîne avec la suite de nos programmes.
Le MIPIM, du 12 au 15 mars 2024, au Palais des Festivals à Cannes, en partenariat avec Nexity, Envie de Ville et Procivis, sur Radio Immo.